I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
C'est drôle.
Où ça va que tu parles comme ça, hein ?
Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend
« Ils vont voir si je suis pas un bonhomme !»
on a l'impression que ça veut dire autre chose.
Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. L'annonce de l'invité de ce nouvel épisode a créé une véritable émeute à la rédaction et ça n'est ni Booba, ni Timothée Chalamet, ni Zidane, mais bien Claude de Koh-Lanta. Il a été qualifié de héros, d'aventurier, de champion par tous ceux qui ont allumé leur écran les vendredis soirs du confinement, et on n'a pas pu laisser passer l'occasion de lui demander sa définition à lui du bonhomme.
Un bonhomme, pour moi, c'est quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités, qui sait s'imposer quand il le faut, protéger également, qui sait ne pas éviter. Même des situations qui seraient peut-être pas à son avantage, mais voilà, garder la tête haute et toujours être droit.
Donc pas mal de pression quand même dans la définition, enfin de choses à relever quoi.
Bah ouais, parce que moi je le parle surtout dans la famille, dans les proches, c'est voilà, tu te dois, c'est souvent faut que tu sois aussi un pilier, un repère et voilà, donc c'est à toi entre guillemets le chef de famille de montrer l'exemple et d'être au front s'il y a besoin pour protéger en fait.
Et toi, t'es un bonhomme ? Tu réussis à l'être ?
Ouais, moi je pense que je suis un bonhomme, de toute façon ça c'est sûr. Après, je me suis jamais caché. Quand j'avais que moi à m'occuper, voilà, après c'est différent, mais quand t'es responsable d'autres personnes, de ta famille, c'est plus pareil. Et dans ce cas-là, ouais.
Et c'est qui les bonhommes de ta vie, ceux qui t'ont entouré ou qui t'entourent aujourd'hui ?
J'ai des amis, hein, j'ai des vrais amis qui sont aussi dans la même pensée que moi, qui mes amis généralement se cachent pas. Moi, les amis, on a toujours été les uns pour les autres. Ça veut dire que nous, on est comme une famille en fait. C'est les amis proches que je connais. Il y en a, ils se connaissent depuis plus de 17 ans, 20 ans. Donc s'ils ont besoin, même si on se voit pas souvent, s'ils ont besoin, on est là les uns pour les autres. Et voilà, je pense qu'ils ont la même vision que moi de ce qu'on attend d'un bonhomme, entre guillemets.
Et dans tous les modèles, les personnes qui t'ont élevé, tes parents, etc., est-ce qu'il y a une masculinité type autour de toi, que ce soit dans une famille proche, éloignée ?
Bah, mon père, moi, c'était quand même, il y avait deux générations d'écart avec moi. Mon père, il est de 38. Ouais, il m'a eu tard. Donc, il avait cette mentalité de travail, de rigueur. Et voilà, donc, il est parti travailler très, très tôt. Donc c'est pas la même génération que moi aujourd'hui. Je suis avec mon fils, je suis beaucoup plus proche, beaucoup plus enclin à jouer, etc. Eux, ils n'avaient pas le temps, ils se levaient tôt, c'était des bosseurs. Et voilà, donc pour moi voilà, c'est ça aussi être un bonhomme, ça veut dire assumer les responsabilités. Maintenant l'homme moderne, ce serait être un bonhomme mais avec quand même la proximité.
Il y avait cette forme de hiérarchie du coup liée à l'âge où il y a
une hiérarchie simplement un écart de vision des choses. Voilà, c'est des générations qui n'ont pas été non plus. C'était pas la même ouverture d'esprit. Bon, généralement, ils allaient au travail très tôt, 15 ans. Ils ont connu aussi la guerre en Algérie. Enfin, voilà, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même vision des choses. Aujourd'hui, on est dans une époque où on est plus ouvert, on a plus de découvertes aussi. C'était pas des grands voyageurs à l'époque, hein, tu sais, ils partaient pas. Mon père, s'il est parti en Algérie, c'était pour la guerre, mais il n'est pas parti dans les autres pays. Enfin, la Thaïlande, tout ça, il n'est jamais allé, aux États-Unis non plus. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas la même époque. Moi, je suis le repère de cette base de travail de rigueur des anciens.
Et les modèles de femmes autour de toi, est-ce qu'il y a un rôle particulier ou est-ce que c'est de l'improvisation?
Chez moi, j'ai les femmes fortes, j'ai d'origine italienne. Chez nous, en Italie, Même si on peut dire que les Italiens ils sont macho tout ce qu'on veut à la maison, c'est madame hein, qui c'est elle la maîtresse, c'est elle qui dirige tout. Donc ouais, moi ma mère c'était un fort caractère, ma tante aussi, des femmes voilà qui savent ce qu'elles veulent. Voilà. Et moi j'ai toujours été pour justement que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire quand il faut le dire.
Et toi enfant, t'étais quel type de petit garçon?
J'étais un garçon, comme je l'ai déjà dit, il y a plus de quelques fois. J'étais quelqu'un de très, très calme à la maison, très obéissant, pas de vagues, rien du tout. Et par contre, dès que j'avais plus l'autorité parentale ou l'autorité d'un adulte, j'étais plutôt tendance à être perturbateur et à jouer un peu, voilà, à la bagarre. J'étais un peu dissipé, donc oui, c'était deux facettes. C'était vraiment tout calme et tout feu à l'extérieur.
Et tu avais des passions qui se démarquaient déjà ou à l'adolescence, enfin au moment où c'est venu, est-ce que tu avais des...
La passion du sport, en l'occurrence, courir pour moi, c'était vraiment pas un sport, c'était un plaisir. Tout ce que je faisais quand je me déplaçais chez les copains ou partout, je faisais en courant. Le vélo, l'été, je passais ma vie sur un vélo. Voilà, mes passions, elles étaient toujours dans dans la rigolade, dans le jeu. Après, j'aimais bien le dessin aussi. J'étais plutôt bon en dessin, mais je recopiais mieux que je n'imaginais.
Et tu te souviens des modèles que tu avais quand tu étais enfant ou ado, de célébrités, que ce soit des acteurs, des sportifs, si tu avais des posters dans ta chambre, est-ce que tu avais des modèles comme ça?
Ouais, Stéphane Edberg dans ma chambre, un tennisman qui jouait service volé, un blond suédois qui dénotait à l'époque. Il y avait Agassi aussi qui dénotait par sa chevelure américaine avec son style fluorescent. De tennis, j'aimais beaucoup le tennis, le regarder. J'avais ces deux joueurs-là qui j'avais beaucoup d'admiration. Après, le foot aussi un peu, mais c'est venu un peu plus tard. J'ai jamais eu vraiment Michael Jackson, que j'aimais beaucoup aussi, avec qui j'ai grandi. Mais sinon, en star de cinéma, tout ça, pas vraiment. Moi, j'ai jamais idolâtré vraiment quelqu'un, mais y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, oui, forcément.
Et si tu devais, en repensant à ta construction, parler de grands moments qui ont fait l'homme que t'es aujourd'hui, des échecs, des réussites, des ruptures, tu penserais à quoi? Qui t'ont fait prendre des trajectoires différentes ou changer, évoluer?
En fait, toute ma vie, moi, j'ai fait des rencontres. J'ai perdu ma mère jeune, bon, vous savez, on le sait. Mais, donc après, des décisions, je les ai prises un peu moi-même. J'ai choisi mes écoles, c'est moi qui faisais les démarches pour y aller. Quand je suis parti à l'armée, c'est moi qui l'ai voulu. Quand j'ai quitté, c'est moi qui l'ai voulu aussi. Quand j'ai pas eu de concertation avec des membres de ma famille ou quoi que ce soit, j'ai toujours pris les décisions seules. Donc forcément, de prendre des décisions, ça t'oblige à tout de suite à être plus responsable. Et ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont apporté chacune un petit peu, en me faisant confiance et tout. Et j'ai pris un peu de toutes ces personnes-là, d'expérience et puis de trajectoire. Donc, j'ai pas un moment précis, mais c'est plus, c'est une multitude de rencontres qu'on fait que ça m'a fait grandir. J'ai toujours été avec des gens plus âgés que moi. Je pense que ça m'a aidé aussi de prendre exemple sur eux et de me faire grandir aussi plus vite, forcément.
Et justement, pour parler de ton parcours Koh-Lanta, tu as fait 3 saisons de Koh-Lanta. Est-ce que tu vois la différence de l'homme que tu as été sur ces 3 saisons? Est-ce qu'il y a eu des grands traits qui composaient ton caractère ou ton attitude dans une saison et que c'était plus du tout le même dans l'autre? Enfin, si tu dois revenir sur toi, qu'est-ce que ça a fait changer?
Forcément, entre la première et la dernière, il se passe 10 ans, ma vie change, je suis père de famille entre temps, forcément, je suis plus posé. La première saison, je suis tout seul, je connais pas l'émission, je connais pas la télé-réalité, tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai pas connaissance. Et j'y vais vraiment pour le jeu, pour la découverte, pour me faire plaisir, pour me dépasser. Elle est dure, cette première saison, parce que je vais loin et elle était au niveau alimentation, tout ça, c'était vraiment la pénurie. On a vraiment été très, très loin dans le dépassement. À la fin, je vois que finalement, beaucoup de gens avaient parlé derrière mon dos, en fait, etc., et critiquaient, chose que moi, j'ai pas faite sur les gens. Ils me désignent tous responsables de leur défaite. OK, c'est pas un problème. Moi, je suis content de mon aventure parce que voilà, je l'ai faite comme je voulais la faire. Ça veut dire en maîtrisant mon destin, entre guillemets, en investissant à fond. La deuxième, maintenant, je reviens en 2020, forcément, je connais le jeu. Je suis père de famille, j'ai plus envie de foncer tête baissée comme je le faisais. J'ai été présenté aussi comme héros. J'ai mes enfants, j'ai pas envie de faire le fou non plus, de faire tout n'importe quoi. Donc, naturellement, je me suis assagi. Je pense que j'ai pris aussi de la maturité, je me suis assagi. Et puis le fait d'être, comme tu l'as dit, être responsable d'une famille, tu peux pas partir avec la fleur au fusil et faire tout n'importe quoi. Donc, c'est un tout. C'est un tout qui fait que mes deux aventures sont totalement différentes. Et puis, psychologiquement, je suis beaucoup plus tranquille maintenant avec l'aventure parce que je l'ai déjà vécu et je l'ai intégré. Et maintenant, je suis plus à l'aise avec ça.
Est-ce que, en toi, tu as des particularités qui appartiennent aux clichés de la masculinité, enfin, ce qu'on dit comme étant des clichés, où tu dis, ah là là, j'avoue, je suis vraiment dans les clichés de ce côté-là, et d'autres où, au contraire, c'est des qualités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on prête aux hommes, voire parfois qu'on prête aux femmes. Bien sûr, c'est des clichés, hein, on peut avoir les deux, mais est-ce que toi, tu t'en identifies?
Je pourrais, oui, de temps en temps, je peux peut-être un peu dire que je suis macho de temps en temps. Ça peut m'arriver de vouloir faire à la place de quelqu'un, parce que je pense que je peux peut-être mieux le faire, ou en tout cas, des fois, je prends peut-être trop de place, il faut que je laisse les autres faire un peu plus. Des fois, j'ai l'impression que si je le fais, ce sera mieux fait. Donc, je veux les faire. Mais après, franchement, moi, je suis ouvert à tout, je n'ai pas de souci. Comme je dis, on a tous une part de finimité en soi. Il y a la partie droite et la partie gauche. Partie droite, c'est la masculinité, partie gauche, c'est la féminité.
Elle s'exprime de quelle manière?
C'est mon côté plus sympa quand tu me regardes de profil.
C'est quoi pour toi être viril?
Être viril, pour moi, c'est, je sais pas, en fait, être viril, t'as pas besoin de gonfler les pecs pour être viril, je pense. C'est une attitude générale. Viril, ça veut dire, c'est juste être, répondre présent quand on a besoin de toi. Pour moi, c'est la base de tout. Après, tu peux faire 2 mètres et 190 kilos, mais quand on a besoin et que t'es pas là, ça sert à rien, en fait. Donc,
ça a rien à voir avec le physique.
Non, pour moi, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de poils, c'est pas une question d'apparence, c'est pas une question d'identité ou de nationalité. C'est juste une attitude, juste être, en fait, être là quand on a besoin de toi et assumer les choses.
Et justement, en parlant d'apparence physique, t'as toujours été à l'aise avec ton apparence physique?
Ouais, je me sentais toujours un peu plus maigrichon quand j'étais petit. J'ai fait du rugby aussi avec les grands, ils étaient balèzes. Ils avaient tous des gros mollets, des grosses cuisses. Moi, j'étais beaucoup plus petit. Écoute, ça m'a jamais posé de problème parce que j'ai toujours donné le maximum à chaque fois, surtout. Je compensais. Mais c'est vrai que si j'avais pu choisir entre mes petits mollets, mes petites cuisses et les cuisses de mes potes, qui étaient trois fois les miennes, j'aurais peut-être fait les cuisses de mes potes. Mais au final, tu vois, je suis tranquille maintenant. Ça m'a passé. Mais on a tous, je pense, à un moment donné de notre vie, quand on est gamin, quelque chose en nous qui nous dérange, qui nous dérange pas, en tout cas, auquel on aimerait, la chose qu'on aimerait améliorer. Mais il faut vivre avec comme on est et l'accepter.
Et quand on se voit à la télé, justement, est-ce que ça développe des complexes ou est-ce qu'on dit, c'est pas si terrible? Est-ce que c'est pas trop dur de se regarder?
Le plus dur, c'est de s'entendre. Je le dis toujours, j'ai la voix d'un personnage de Walt Disney, j'ai une voix de canard. Ça me fait. Après, maintenant, je suis habitué, ça me dérange pas. C'est vrai qu'on s'entend pas quand on parle. On a l'impression que c'est que notre voix, elle est normale. Et puis quand on entend à la télé, j'avoue, ça fait tout de suite bizarre. Donc la voix peut-être, mais après le reste, l'attitude et tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui me regarde non plus trop. J'ai suffisamment confiance en moi pour pas attendre le retour du regard des autres.
Et quand tu te vois dans les saisons, on va parler de la dernière saison, s'il faut en choisir une, qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi quand tu vois sur la longueur de la saison, là où tu dis « Ah, je suis fier, j'ai été fidèle à mes valeurs là-dessus, j'en suis sûr. »
Après, moi, je peux m'adapter à tout. Mais après, je suis fier d'avoir d'avoir voilà d'avoir été jusqu'au bout avec en défendant ce que je pensais du mérite sur cette aventure là. On m'a présenté en tant que héros, je voulais avancer avec les héros, je voulais qu'on nous intègre, je voulais pas faire de coups un peu tordus aux gens et tout. Donc je suis assez fier d'avoir pu tenir tout ça en fait, parce que
d'avoir été droit quoi.
Ouais, c'est compliqué dans Koh-Lanta toujours de faire avec les autres, d'être droit, de pas d'aller contre en fait ses pensées. Forcément, à un moment donné, t'as beau être le plus honnête possible, à un moment donné, c'est un jeu d'élimination où il faut survivre aux autres. C'est un peu compliqué. Tu peux pas ne pas faire de promesses, tu peux pas ne pas trahir en fait à Koh-Lanta, et c'est ça qui est compliqué. Donc après, si ta ligne de conduite depuis le départ et que tu t'y tiens, c'est une bonne chose. Donc moi, je suis assez fier de ça, c'est cette saison.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses où quand t'as vu, à part ta voix, tu aurais eu envie de corriger après coup? Des choses dont t'es pas spécialement fier?
J'ai plein de choses. Tu sais, quand tu regardes le jeu, après, tu peux te dire, ouais, si j'avais su à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire autrement. C'est ça. Après, tu peux toujours chercher les détails. Moi, je suis pas quelqu'un qui retourne le passé. L'aventure, elle s'est faite parce qu'elle s'est déroulée comme ça. Pour moi, elle est pleine, elle est cool, donc j'ai pas de regrets. Peut-être que si j'avais été éliminé avant, que si j'avais eu une des grosses exceptions, une désillusion, je t'aurais dit aujourd'hui j'aurais voulu changer des choses. Mais là, en l'occurrence, bon, j'ai pas la gagne. Franchement, comme je l'ai dit, redis, c'est pas quelque chose qui m'a peiné. 10 minutes après, j'étais déjà content d'avoir fait l'aventure que j'ai faite. Donc non, aucun regret et je changerai rien.
Mais c'est quoi pour toi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire? Dans la vie, hein, Koh-Lanta, pas Koh-Lanta.
Le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, c'est merci d'être comme t'es. C'est ma femme, elle m'a dit là, je suis content que les gens te voient enfin comme tel que tu es. Donc, je pense que c'est le plus beau compliment.
Et est-ce que t'es quelqu'un de sensible?
Oui, évidemment. Ouais.
Ça se traduit comment? Est-ce que tu pleures ou est-ce que tu dévoiles facilement tes émotions? Est-ce que t'es facilement touché, désarmé?
Non, j'avoue, j'avais bien mis une grosse carapace depuis pas mal d'années sur ça. Après, quand t'as une famille maintenant et que tu t'ouvres plus, bah, cette carapace, forcément, elle est plus aussi épaisse. Donc, oui, ça peut m'arriver tu l'as vu à Koh-Lanta, ça peut m'arriver de verser ma larme. J'ai pas de honte à ça. Moi, je pense que pleurer, ça fait du bien aussi. J'ai pas de souci avec ça. Et voilà, après, les enfants, je pense que c'est ce qui te rend le plus sensible et le plus fragile au final.
Ouais, c'est ça. Quand on devient papa, on se sent plus fragile. Ou limite, on se sent plus solide. Enfin, tu dis qu'on se sent
plus fragile. Ouais, t'es plus solide, t'es plus fragile parce que tu veux qu'il leur arrive que des bonnes choses. Et quand tu les vois tristes ou quand tu les vois déçus ou que tu les vois qu'ils n'ont pas confiance en eux ou tout ça, c'est des choses que tu contrôles pas. Et quand tu contrôles pas, ben moi, j'aime pas de pas contrôler forcément. Donc, quand tu contrôles pas les sentiments et les déceptions, tu veux faire ton maximum pour que ça aille. Mais des fois, tu arrives pas. Donc, c'est ça qui fait mal.
C'est quoi, pour rester dans le thème de la sensibilité, c'est quoi les choses, enfin les situations, les films qui peuvent t'émouvoir énormément ou te faire pleurer à coup sûr? Ça peut être des scènes de films, mais c'est toujours les mêmes scènes, ou des scènes de la vraie vie, ou une musique.
Ouais, bah les musiques, tu sais, il y a des musiques qui traversent ta vie et qui te font penser à ton passé. Donc, ce serait plutôt des musiques, oui, sur lesquelles je serais plus sensible parce qu'elles te replongent dans des souvenirs. Après, sur un film. Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps de pleurer sur un film. Ma femme, elle, ça m'arrive quasiment tout le temps. Donc maintenant, en fait, j'en rigole, tu vois, quand j'en ai plein avec elle. Mais non, je peux m'émouvoir sur plein de choses. Moi, j'ai pas de frein. Après, j'essaye de prendre du recul à chaque fois. Mais non, je pense plus une musique, c'est ce qui te rend plus nostalgique, en fait.
Et c'est quoi les choses? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur, des angoisses ou des phobies, des choses que tu crains vraiment?
Ouais, je t'avoue, il y a pas grand chose que je crains dans le sens où, moi, comme j'ai dit, j'ai perdu ma mère à un certain âge, j'ai dépassé l'âge de ma mère, j'ai vécu plein de choses. Maintenant, voilà, j'ai des enfants et tout. Je voudrais pas qu'il m'arrive une cacahuète, c'est clair, mais je suis assez tranquille avec ça. Maintenant, c'est clair que vieillir, c'est pas la chose qui m'enchante le plus, tu vois. Je veux pouvoir profiter au maximum et faire le maximum de choses. Forcément, t'as pas le temps tu pourras jamais faire tout ce que t'as envie. Et donc, je pense que ce serait plus ça, le vieillissement. Mais bon, après, il faut l'accepter, c'est comme ça.
Et ton rapport à la compétition, c'est quoi? Est-ce que t'es un grand compétiteur? Est-ce que c'est le dépassement de soi, le fait de gagner? Est-ce que t'as toujours été très compétitif?
J'ai toujours été compétiteur, mais je suis pas un compétiteur avec l'adversaire. Je suis un compétiteur avec moi-même. Et au final, les gens, ils pensent que je suis un compétiteur et que je me bats contre eux, mais je me bats jamais contre eux. Je me bats toujours contre moi, au final. Donc, même si l'adversaire, il est là, et même s'il est bon, même s'il me bat, c'est pas lui, en fait, que j'ai envie de battre. J'ai envie de me pousser moi en fait au maximum à chaque fois. Et parce que voilà, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, on peut toujours obtenir plus de soi-même et la compétition, elle te permet justement d'essayer de chercher cette petite barrière ou ce petit plus que tu aurais pas ailleurs.
Et quand tu étais petit et que tu t'imaginais autour de 40 ans, tu te projetais comment? Est-ce que tu t'imaginais l'homme que tu es aujourd'hui ou est-ce que c'était ça que tu voyais?
Non, je me suis jamais fait de plan sur la coma. Je me suis jamais dit j'aurais des enfants, j'en aurais deux, j'aurais une maison. Non, pour moi, l'avenir, c'était profiter au jour le jour. En fait, je n'ai jamais fait des prévisions à long terme. J'ai toujours fait sur les quelques mois, etc. J'ai plus quelqu'un qui vivait l'instant. Donc, je n'ai jamais trop imaginé comment je pourrais être à 40 ans. Non.
Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as absolument envie d'accomplir dans ta vie? Un truc où tu t'es dit, ça, je veux l'avoir fait.
Oh, bon, il y en a tellement. Après, il y a plein de trucs que j'aimerais faire absolument. Après, non, j'ai pas envie, en fait. Je veux pouvoir partager des choses avec mes fils, forcément. Je veux pouvoir, qu'ils soient grands, qu'on puisse faire plein de trucs ensemble et tout. Mais après, dans l'idéal, pour moi-même, non, il n'y a pas quelque chose qui... J'ai envie de faire tellement de choses que je ne peux pas t'en sortir une comme ça.
Et si tu devais transmettre une ou plusieurs qualités de père en fils, quelque chose que tu as vraiment envie de transmettre, ça serait quoi?
Ah, c'est le courage. Il faut du courage. Le courage que tu l'aies pour n'importe quelle raison, il faut du courage. Du courage de te dépasser. Le courage d'accepter les mauvaises choses. Le courage, le courage, en fait, il est large. Il regroupe tellement de choses qu'il faut être courageux dans la vie. Si tu n'es pas courageux, t'auras du mal à te dépasser, t'auras du mal à accepter, t'auras du mal à avancer. Et ça, pour moi, c'est la base de tout, c'est le fait de courage.
Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.